Alors voilà, pour ce soir, on va continuer l'étude biblique de la dernière fois où nous avions parlé de la croix, le sens de la croix, qu'est-ce qui se passe à la croix. Et on avait parlé notamment de ce qu'on appelle la substitution pénale, le fait que Jésus est puni, hein, pénal, porte une peine à notre place, substitution à notre place. Lorsqu'il meurt sur la croix. Et j'avais montré que cette idée de la substitution pénale était une idée biblique, ce n'était pas la seule... c'était en fait une clé d'interprétation de la croix, même si ce n'était pas la seule image qui était utilisée pour parler de la croix dans la Bible. Alors des fois on dit c'est le schème, un schème, c'est une façon d'expliquer le schème de la substitution pénale, voilà, et bien quelque chose de biblique pour parler de la croix. Et j'avais dit que on verrait aujourd'hui quelles sont les oppositions que certains formulent contre la substitution pénale. Et il y en a, alors, en tant que évangélique, on est quand même majoritairement d'accord avec cette doctrine. Jésus est mort à notre place, mais ce n'est pas le cas de beaucoup, y compris d'ailleurs dans le milieu évangélique. Hein, tout le monde ne confesserait pas cette doctrine, mais notamment des opposants dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, surtout l'aile à tendance libérale. Et aussi, dans le milieu évangélique, des personnes comme par exemple Brian McLaren, avec le mouvement de l'Église émergente, s'opposaient fermement à cette doctrine. Et du côté catholique, on a un théologien qui s'appelle Bernard Cesbouet, qui a écrit plusieurs livres sur la croix de Jésus-Christ. Et justement, il est contre cette doctrine de la substitution pénale qu'il qualifie d'excroissance morbide de la théologie. Et je voudrais commencer, avant de répondre peut-être à certaines des principaux arguments contre cette doctrine, lire un petit peu un long extrait de Bernard Cesbouet pour un peu donner le ton et vous puissiez sentir un petit peu quelles sont les réticences à adopter cette doctrine. Tout ce qu'il dira, Bernard Cesbouet, dans ce que je vais lire, je ne pense pas qu'il a forcément raison, parce que des fois, on peut dire aussi, je ne suis pas d'accord avec une idée, mais en donnant des arguments que même ceux qui ont cette idée-là, en contrecarrant des arguments que même ceux qui ont l'idée ne croient pas. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien de plus pénible que de lire, par exemple, un livre sur la théologie évangélique qui serait contre, par exemple, la théologie évangélique, mais où ils disent même des choses que les évangéliques ne pensent pas. Alors, bien sûr, voilà, vous voyez. Donc, mais je vais quand même le lire. Ça vaut le coup de lire ça. Il faut un peu s'accrocher, parce que la pensée est quand même assez profonde. À la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle et au cours des temps modernes, la doctrine de la satisfaction... Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose que la doctrine de la substitution pénale, la satisfaction par le sacrifice de Jésus à la croix, il satisfait la justice de Dieu. Hein. La doctrine donc, de la satisfaction s'est progressivement dégradée pour faire une place de plus en plus grande à l'idée de justice commutative et même vindicative. La satisfaction a été comprise comme une compensation aussi exacte que possible du péché commis par un châtiment expiatoire. Ce schème, donc j'ai déjà donné ce mot tout à l'heure, souvent sous-jacent au fonctionnement de la justice humaine, a été spontanément projeté dans les relations de l'homme avec Dieu. La compensation pénale comporte donc l'idée que Dieu doit être vengé en infligeant une peine qui soit à la mesure de l'offense reçue, alors que l'idée biblique d'expiation exprimait avant tout l'intercession en acte du Christ priant de tout son être pour ses frères. Certaines théologies ont voulu fonder dans l'Écriture l'idée d'une vengeance divine. La théologie du salut s'aventure alors sur le terrain du juridique. La rédemption s'accomplit selon l'idée d'un pacte sacrificiel où la prestation souffrante de Jésus est exigée de manière immédiate par le Père afin de compenser la gravité du péché de l'homme. La critique, bon, je saute une petite partie. Déjà, les réformateurs du XVIe siècle ont fortement insisté sur la colère de Dieu qui s'abat sur le Christ substitué à la personne des pécheurs. Luther décrit avec lyrisme Jésus comme le plus grand pécheur du monde. Calvin va dans le même sens, mais avec plus de sobriété dans la forme. Une catégorie nouvelle se fait jour désormais, qui est appelée à un développement considérable, celle de la substitution. Luther, on vient de le voir, est le témoin de la substitution dans la culpabilité. Le Christ devient coupable de tous les péchés du monde et meurt en coupable. Le péché est ainsi détruit dans sa mort. Là, lorsqu'il dit ça, c'est vrai. Hein, Luther, il a dit ça. Dans des écrits de Luther, il dit « Jésus est devenu le plus grand pécheur de tous les temps ». Et ça, c'est pas tout à fait juste. Hein. Il est devenu le plus grand accusé, puni de tous les temps, mais pas le plus grand pécheur. Hein. Calvin considère surtout que le Christ s'est substitué à nous dans la condamnation. Il est devant le Père, le grand accusé en notre nom. Après, il cite encore Karl Barth. Cet enseignement, voilà, d'inspiration protestante, précisons-le, deviendra courant au XIXe siècle. Il véhicule l'idée, absente chez les pères comme chez les théologiens de la grande scolastique, que la justice doit précéder la miséricorde. La satisfaction est donc un préalable au pardon. Autrement dit, l'essentiel de la rédemption ne se joue pas entre l'initiative de pardon de Dieu et la nécessaire conversion de l'homme. Il se joue entre Dieu et Dieu, entre le Fils qui offre sa prestation satisfactoire et le Père qui, à cause d'elle, change d'attitude et passe de la colère à la bienveillance. Cette théologie de la substitution mérite donc plus que des réserves. Elle doit être considérée comme une excroissance morbide de la théologie et non comme un élément du dogme. La Commission théologique internationale a prononcé à son sujet un jugement net. Il ne s'agit pas de penser, et là c'est la citation, hein, donc de cette commission théologique catholique, « Il ne s'agit pas de penser que Dieu a puni ou condamné le Christ à notre place. C'est là une théologie erronément mise en avant par plusieurs auteurs, notamment dans la théologie réformée. » Et bon, voilà. Et puis ensuite, il continue. Et puis, il conclut en disant « La substitution comporte cependant un élément de vérité. Le Christ a accompli, à travers une mort qui ne lui était pas due, une rédemption dont nous étions incapables. En ce sens, il a agi à notre place, mais ce n'était pas pour accomplir une peine. Il vient se placer à l'endroit où nous sommes, afin de réaliser, au nom du lien de solidarité qu'il a établi avec nous, ce que notre situation de pécheur nous empêchait de faire. » Vous voyez, je ne sais pas si ça valait le coup, en tout cas moi je trouve que ça valait le coup de lire, voyez un petit peu le type d'argument qui s'oppose à la doctrine de la substitution pénale et les positions très claires qui sont affirmées comme de cette doctrine que c'est une excroissance morbide de la théologie et que ça n'a rien à voir à la limite avec l'évangile et avec la Bible.
En fait, il dit quelque chose de très clair, mais il
ne
donne pas d'argument. Là, parce que
tu as lu. Alors là, oui, dans cette partie, il ne donne pas forcément beaucoup d'arguments. Peut-être, sauf l'aspect, bon, on le verra de toute façon, sauf l'aspect éventuellement un petit peu violent, hein, que pourrait être. Si on comprend mal ce qu'est la substitution pénale, on pourrait comprendre qu'il y a une certaine violence, hein, du Père contre le Fils à la croix, etc.
C'est une étude comme la dernière fois, tu souhaites qu'on interagisse ou
pas? Ouais. Comme la dernière fois, allez-y, hein, parce qu'il peut y avoir des mots compliqués aussi ici ou là.
Qu'est-ce que la grande scolastique?
La théologie du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, etc. Ah oui. Donc il dit que c'est absent, il dit que finalement la substitution pénale est absente chez les pères d'Église et dans toute la théologie du Moyen-Âge. C'est pas tout à fait vrai, et justement, on va pouvoir. Il y a un certain nombre de pères de l'Église, c'est vrai, pas tous, mais qui ont parlé de la substitution pénale quand même. C'est effectivement. Là, par exemple, il donne un argument quand même. En tout cas, pour un catholique, c'est un argument très fort de dire que c'est pas présent chez les pères, alors que c'est faux, hein, c'est quand même présent. pas chez tous, mais ils ont surtout, les pères de l'Église, insisté sur la croix comme victoire. Donc le schème, voilà, le schème du Christus Victor. Hein. Jésus à la croix est victorieux sur les puissances des ténèbres, etc., et sur la mort et sur le péché, etc., la victoire. Hein. Alors, oui, j'ai sauté un petit paragraphe où il donnait quand même un argument un moment. Alors, il y a d'autres opposants célèbres, dont l'évêque suédois Gustaf Ohlen, dans son ouvrage justement Christus Victor, et un certain Paul Fides, professeur de théologie systématique à l'université d'Oxford, dans un ouvrage en anglais, Past Event and Present Salvation, The Christian Idea of Atonement. Donc, voilà, je traduis pas. si vous voulez. Alors, passé et présent du salut, voilà, l'idée chrétienne de l'expiation. Hein, je crois que atonement, c'est l'expiation, hein, il me semble. Ouais. Alors, les arguments de ceux qui s'opposent à la substitution pénale. Un des premiers arguments, c'est que la substitution pénale serait anti-trinitaire. Parce qu'elle nous dépeint un père qui est en colère et qui punit un fils qui lui est aimant. Et cela introduirait une division dans le Dieu trinitaire. Deux personnes de la Trinité, il y en a une qui sera en colère, du coup, contre l'autre. Bon, alors comment on peut répondre à ça ? On voit justement que dans la substitution pénale, on voit justement le fonctionnement, un des éléments en tout cas du fonctionnement de la Trinité, en tout cas ce qu'on peut voir. L'action est initiée effectivement par le Père, accomplie par le Fils et appliquée aux croyants par le Saint-Esprit. Le Père donne le Fils, mais le Fils donne lui-même volontairement aussi sa vie, comme un acte d'obéissance au Père. Et le fait que le Père ait puni le Fils à cause de nos péchés ne veut pas dire qu'il l'a rejeté, son Fils, qu'il a haï son Fils. Il a toujours aimé son Fils. Il n'y a pas de division qui intervient à ce moment-là dans la Trinité. On est peut-être même au summum de la communion, puisque le Fils obéit. C'est l'acte d'obéissance au Père. Et c'est plutôt un acte d'unité avec la volonté du Père. Il n'y a pas de division qui opère dans la Trinité, qui s'opère à ce moment-là dans la Trinité. On est dans l'unité pour accomplir la mission commune de salut pour l'humanité. Alors, bien sûr, Jésus sur la croix cite un psaume où on a l'impression qu'il est en train de dire qu'il est séparé du Père, puisqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la citation déjà d'un psaume dans l'Ancien Testament qui parle d'un juste qui souffre de façon injuste. Et Jésus s'identifie pleinement au cri de ce psalmiste parce qu'il est celui qui est juste par excellence et qui souffre. Mais sa communion avec le Père est sans doute troublée à ce moment-là. Mais on peut remarquer que même pour dire à Dieu son sentiment d'abandon, il s'adresse à Dieu. Il n'y a pas en tout cas rupture au sein de la Trinité. C'est une prière. Et même après avoir dit cela, il remet encore son esprit, avant d'expirer son dernier souffle, il remet son esprit au Père. Il reste, Jésus étant sur la croix, dans un esprit de prière, de A à Z. Même quand il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est aussi une prière de confiance et de demande qu'il adresse à son Père. À aucun moment, la Trinité ne se disloque, même si dans l'expérience subjective du Fils, ce qu'il ressent alors qu'il est en train d'obéir au plus grand acte d'obéissance à son Père, il se sent abandonné à ses souffrances comme un juste qui meurt de façon injuste. Voilà un petit peu ce qu'on peut répondre hein, à un moment donné, la Trinité n'a connu et ne connaîtra de division. Hein. Je pense que d'ailleurs, si on, ce serait alors très grave de se dire que Jésus sur la croix, tout d'un coup, n'est plus Dieu, parce que du coup, ce serait alors un homme qui mourrait, et un homme ne pourrait pas payer pour notre salut. Oui.
Et dans le jardin de Gethsémané, on voit bien que Jésus dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, l'obéissance que tu as soulignée, quoi.
Oui. Oui, y a rien qui sépare le Fils du Père. Il est en obéissance totale, en fait. Il s'est soumis complètement à la volonté de Dieu. Il a même lutté, effectivement, dans le jardin de Gethsémané pour ça. Et puis surtout, je veux dire, si alors Jésus n'était plus Dieu, alors il faudrait se dire qu'à un moment donné, il redevient quand même Dieu. Ce serait un peu bizarre, ces allers-retours-là. Et puis surtout, ben, le Dieu, du coup, ne serait... Disons, voilà, si le Fils n'était pas Dieu, je pense que l'univers n'existerait plus d'un seul coup, quoi, je veux dire, parce que c'est lui qui soutient toute chose par sa parole puissante, etc. Deuxième argument, c'est Dieu qui tue indirectement Jésus, car la foule faisait la volonté de Dieu. Un argument, hein, voilà, contre... La substitution pénale, bah finalement, on fait de Dieu, quelque part, un meurtrier, puisque la foule ne faisait qu'accomplir la volonté de Dieu. Donc, indirectement, Dieu est meurtrier. Alors, il faut faire une distinction d'intention. L'intention de Dieu était différente de l'intention des hommes. Ce que l'homme a pensé pour le mal, hein, cette colère de la foule, bah Dieu l'a utilisée pour le bien de l'humanité et pour notre salut en Jésus. Donc l'homme est bien responsable de la mort de Jésus sur la croix. D'ailleurs on le voit, hein, les protagonistes humains sont plusieurs. Hein. Il y a Judas qui trahit Jésus, il y a les chefs religieux, ce faux procès, il y a toute la foule. Hein. Donc c'est bien... Dans le récit biblique, l'homme qui pêche en crucifiant Jésus sur la croix, Dieu, lui, n'a pas péché en livrant Jésus-Christ aux mains des pécheurs pour notre salut. Ça se fait par un péché, oui, que Jésus est amené sur la croix et Dieu l'utilise. C'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et derrière ça, il y a aussi des puissances spirituelles qui influencent aussi à ce moment-là, c'est assez clair. Et puis finalement, ces puissances spirituelles qui veulent tuer Jésus aussi, ben finalement sont vaincues par la mort de Jésus aussi.
Pourtant, on parle de mort volontaire de Jésus. Il donne sa vie.
Alors il la donne, il l'a dit d'ailleurs, oui, tout à fait. Il l'a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne... de moi-même, pour autant, il ne s'est pas suicidé, Jésus. C'est quand même les hommes et la méchanceté des hommes qui lui ôtent la vie, qui lui font un faux procès, qui le crucifient comme un criminel. On a, dans le récit biblique, on voit la méchanceté du cœur de l'homme, des religieux, de Judas, de tout le peuple, mais aussi le don volontaire, et justement, c'est paradoxal. Mais vrai, Jésus est l'agneau de Dieu, il est à la fois l'agneau et en même temps le grand prêtre qui se donne lui-même pour accomplir le sacrifice de lui-même et pour accomplir l'expiation des péchés. Ce n'est pas un suicide, c'est une mise à mort à cause de la lâcheté de Pilate, par exemple, la soif de violence des êtres humains. Donc on peut, voilà, mais à aucun moment donné, Dieu tue Jésus. Cette idée n'est absolument pas une idée qu'on voudrait véhiculer lorsqu'on parle de Jésus qui prend la punition à notre place. Ça se fait par le truchement, par l'intermédiaire de la méchanceté des hommes. Et cette méchanceté est condamnable. Elle ne devient pas bonne aussi non plus tout d'un coup parce que c'est... ça nous apporte au final le salut. Il y a une phrase un peu malheureuse aussi, plutôt dans le milieu catholique aussi, bienheureuse faute, en parlant du péché d'Adam, là pour le coup, qui nous valut Jésus. Donc la faute d'Adam et Ève est qualifiée de bienheureuse parce qu'il y a la grâce en Jésus. Là, il ne faudrait pas dire aussi, heureusement que les hommes étaient méchants à ce moment-là. Ça n'aurait pas de sens. Troisième argument, la substitution pénale justifierait, ce serait une sorte d'abus d'enfant par Dieu. Alors j'explique. Cet argument consiste à dire que les victimes d'un abus devraient suivre l'exemple de la souffrance silencieuse et rédemptrice de Jésus-Christ. Hein, puisque Jésus, effectivement, ne dit pas grand-chose à son procès, ne se révolte pas contre tout ce mal qui se déchaîne contre lui. Alors déjà, on peut répondre que l'œuvre de rédemption que Jésus accomplit est unique. Elle concerne Jésus et son œuvre à la croix. Il est mort une fois pour toutes. Aucun de nous, par nos souffrances, on pourra jamais expier le moindre péché, accomplir un acte de rédemption. Dans ce sens-là, on ne peut pas imiter Jésus et même on ne doit pas essayer de l'imiter. Il faut se rappeler ce qu'on vient de dire, Jésus-Christ a souffert par les mains de l'homme, justement c'est l'homme qui l'a cloué à la croix et non Dieu. Alors, on peut aussi dire d'autres choses, on peut faire remarquer que Jésus, même si effectivement il est né comme un bébé dans la crèche, il est adulte au moment de la croix, il a choisi de donner sa vie à la croix parce qu'il est rempli d'amour pour nous et il fait ce choix librement. Il va jusqu'à dire justement que personne ne lui prend sa vie, c'est lui qui la donne volontairement. Et donc faire le portrait d'un Dieu sadique qui abuse de son enfant, c'est totalement erroné et ce serait même blasphématoire de dire ça. Dieu le Père n'est pas un abuseur dans les Écritures, tout au long du récit des évangiles, il approuve son fils. Il y a même cette voix du ciel hein, qui dit que c'est le fils bien-aimé, etc. Il a toute l'approbation du Père. À aucun moment donné, le Père abuse. Et on peut aussi dire que Jésus nous appelle, certes, à porter notre croix dans différents domaines de notre vie, mais cela n'empêche pas d'encourager les victimes d'abus ou de violences à faire appel à de l'aide humaine, comme la police, les tribunaux, pour sortir d'une situation de danger ou d'injustice. Ce serait un raisonnement qui serait mauvais à tenir, de se dire « Jésus a souffert sans contester, donc je dois accepter toute forme d'abus ». Absolument pas. Mais pour certains, ça justifierait ça. Autre type d'argument, c'est de dire que la substitution pénale n'est pas possible, tout simplement, parce que la culpabilité n'est pas transférable. Et ce serait moralement mal de punir un innocent à la place du coupable. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? On peut répondre à ça plusieurs choses. Déjà, premièrement, il y a des dettes qui sont transférables. Par exemple, les dettes financières. On peut avoir une dette financière, puis ça peut être payé par quelqu'un d'autre. Donc, voilà. On peut faire remarquer que Jésus est le seul homme parfait, Dieu qui est venu en tant qu'homme, le seul à pouvoir être le sacrifice pour nos péchés, ce qui est valable pour Jésus, donc n'est pas valable, encore une fois, pour nous dans ce domaine. Dieu fait homme, Jésus, nous représente devant le Père, il nouvel Adam, et c'est en tant que représentant qu'il va prendre notre place et qu'il paye pour nous. Henri Blocher dit, il y a deux niveaux de justice, la simple justice, celle qu'on pratique entre les hommes, et la justice justifiante. La substitution pénale n'est pas une règle de notre droit, évidemment, lorsqu'on punit un coupable. Personne ne peut dire « je vais prendre la punition à sa place » dans le droit humain. Et même bibliquement, d'ailleurs. Il ne faut pas punir quelqu'un d'autre à la place du coupable. Mais C'est ce que Jésus fait. C'est une justice pour justifier d'autres. C'est pas la simple justice qui s'applique entre êtres humains. Jésus s'est chargé de la culpabilité, de l'effet de nos actes, de nos péchés, en fait, sur notre relation avec Dieu. C'est cette... des fois, on utilise aussi le mot dette, hein, cette dette contractée par le péché vis-à-vis de Dieu, dont Jésus porte la peine. Alors, voilà, c'est plus juste de dire la peine que la culpabilité. Parce que Jésus n'est pas devenu coupable, mais il a pris une punition, si on veut, un espèce de verdict d'un jugement à notre place. Après, ça ne veut pas dire que, voilà, en tant qu'homme, si on fait du mal à quelqu'un, bon, Jésus a payé pour nous la dette contractée envers Dieu, ben, mais vis-à-vis de cette autre personne, ben, il peut y avoir des problèmes quand même qui subsistent. Hein. Lorsque Dieu, Jésus à la croix, paye pour nos péchés, ça ne veut pas dire que on n'aura pas de démérite personnel dans notre vie à avoir péché. Et qu'il n'y aurait pas de conséquences du coup de nos actes non plus. Alors il y en a qui parlent aussi de la justice de Dieu en disant que la justice de Dieu n'est pas rétributive, mais qu'elle a une intention de restaurer, alors restauratrice ou restaurative, uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition. Dieu ne punit pas le mal. S'il y a une justice de Dieu, c'est uniquement pour nous éduquer, nous apprendre à bien vivre sans qu'il y ait une punition, une sanction, une peine. Alors, on peut dire à ça que oui, dans la justice de Dieu, il y a cette notion-là, il y a une notion pédagogique. Dieu, lorsqu'il exerce sa justice, il veut nous apprendre à vivre selon sa volonté, mais ça n'exclut pas la dimension si punitive. Par exemple, un juge dans un tribunal qui jugerait le coupable et puis qui tout d'un coup le relâcherait en disant « Oui, bon, je pense que tu as compris, hein, tu recommenceras plus, etc. » Il relâcherait le coupable. Ça arrive parfois, d'ailleurs, que des personnes jugées soient relâchées trop rapidement et ça nous révolte. Après, ils ont aussi il y a le risque des récidives et tout ça. Donc, si on l'accepte de notre justice, eh bien, à plus forte raison, pour la justice divine, hein, il y a cette notion aussi, voilà, de punition qui est là. Il ne faudrait pas exclure la dimension punitive aussi de la justice divine, ou pour ne retenir que la dimension éducative. On le voit, hein, assez clairement dans la Bible. Et alors là où on le voit le plus, c'est concernant le jugement dernier, etc. La séparation qui se fait entre ceux qui héritent par grâce du salut et les autres qui sont condamnés. Et si on accepte la doctrine des peines éternelles, d'un châtiment éternel, alors là, il n'y a plus vraiment de notion restauratrice de la justice de Dieu, puisqu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de but de salut à la fin. Donc ça me paraît assez clair. On pourrait citer plein de choses, hein. Adam et Ève qui sont chassés du jardin d'Éden, par exemple, ils ont désobéi, ben Dieu les punit. Il continue à les accompagner par sa grâce, et puis il va même commencer un plan de salut pour restaurer cette relation perdue avec Dieu. Mais il y a aussi une dimension qui est punitive, et c'est la mort. Hein. La mort et un certain nombre d'autres souffrances qui vont avec. Alors, la substitution pénale encouragerait la passivité morale, ben voilà, si Jésus accomplit tout à la croix, ben finalement, on n'a plus rien à faire. Voilà, tout est accompli. On peut être vivre notre vie dans la passivité. Alors, on peut répondre que c'est absolument pas le cas avec la doctrine de la substitution pénale. Elle nous transforme aussi, la grâce nous éduque, nous transforme. Et son œuvre à la croix va nous encourager, justement, à vivre pour Jésus dans une attitude de reconnaissance, de joie. Et on n'est pas du tout dans l'optique que Paul dénonce aussi, hein, « Pécherions-nous, hein, afin que la grâce abonde, loin de là, etc. » Le chrétien est celui qui vit une vie aussi avec le travail de l'esprit dans son cœur. Et c'est absolument pas passif, moralement. Est-ce que Dieu dirait « Faites ce que je dis et pas ce que je fais » Alors, par exemple, il nous dit « Ne faites pas vengeance », mais lui, il, en quelque sorte, il y a une forme de vengeance, il déverse sa colère sur quelqu'un. Alors, il ne faut pas oublier qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend lui-même le châtiment. Oui, il y a deux personnes, il y a le Père, il y a le Fils, il y a même le Saint-Esprit. Mais c'est un être divin, Dieu, qui prend sur lui, dans la personne du Fils, la condamnation que les pécheurs méritent. Dieu n'a pas fait vengeance sur quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre vengeance et sentence?
Oui, alors là, le mot vengeance, non. Oui, ce n'est pas une vengeance. Mais c'est l'idée de... Dieu nous demande de pardonner aux autres sans leur faire payer. tout ce que peut-être on pourrait éventuellement leur faire payer. Et donc, pourquoi Dieu aurait-il besoin, lui, de payer quelque chose? Il nous demande à nous de pardonner sans contrepartie. Pourquoi lui aurait-il besoin d'une personne pour déverser sa colère? Alors, ce qui est important de rappeler là, c'est que c'est pas une personne autre, hein, c'est Dieu, l'être divin lui-même, qui prend sur lui le sacrifice. Dieu s'est sacrifié lui-même. Ce n'est pas une vengeance, voilà, comme celle des hommes, c'est un jugement, un juste jugement. D'ailleurs, même dans le jugement final, personne ne sera puni pour quelque chose qu'il ou elle n'a pas fait. Et encore une fois, il faut faire attention à ne pas nous comparer à Dieu ou comparer Dieu aux êtres humains. C'est une réponse qui revient souvent, hein. Dieu est le juge de tout. Il est à la fois amour, à la fois saint, et à la croix il va manifester tous ses attributs. Il est juste, donc il va juger le péché. Il est amour, donc il se sacrifie. Il se sacrifie par amour, et il peut le faire parce qu'il est saint et qu'il est parfait. Donc là encore une fois, on ne peut pas se comparer à Dieu. Et donc oui, Dieu accomplit notre justice autrement que ce qu'il nous demande dans nos relations interpersonnelles. On n'aurait pas le droit en tant qu'être humain de dire bon ben je te pardonnerai, mais d'abord je vais me défouler sur quelqu'un d'autre, puis ensuite seulement je serai prêt à te pardonner. Ce serait voilà contre des tas d'enseignements bibliques. Alors, d'autres disent que la substitution pénale dépeint un Dieu qui est convaincu du bien fondé de nous aimer, mais qu'il ne peut nous aimer, justement, voilà, qu'après avoir déchargé sa colère contre nous. Ça rejoint un petit peu l'idée d'avant, hein. On peut aussi dire que Jésus-Christ est mort sur la croix alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, hein. Dieu est mort pour des pécheurs. Et il nous aime, donc lorsque Jésus meurt à la croix pour nous, c'est aussi une manifestation de son amour alors qu'on est encore pécheur. Il n'a pas besoin d'avoir d'abord déchargé sa colère pour nous aimer. Dieu a tant aimé le monde alors que nous étions encore ses ennemis. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a pris sur lui-même sa sainte et juste colère pour nous sauver de la condamnation et nous restaurer dans la relation avec lui. C'est important de se dire, Dieu aime les pécheurs et il ne les aime pas que parce que il a pu décharger sa colère dans la personne du Fils. Il nous aime avant et c'est même pour ça qu'il accomplit le salut. Il y en a qui disent encore que la substitution pénale ne nécessiterait pas la résurrection, elle serait suffisante en elle-même. Alors, peut-être pour l'accomplissement du salut, mais en tout cas pas pour sa manifestation. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, on est assuré de sa victoire, que le pardon est vraiment acquis. C'est plus une confirmation, démonstration. Et puis en plus, Jésus est le nouvel Adam, de la nouvelle création. Ça ajoute aussi cette espérance que du monde nouveau qui vient. C'est par la résurrection que Dieu montre publiquement que le sacrifice de Jésus à la croix est agréé du Père, a été accepté par le Père, et que Jésus en est victorieux. Autre argument encore, que la substitution pénale encouragerait la violence. Donc la violence divine contre le péché serait imitée par les êtres humains sur terre qui deviennent violents les uns contre les autres. Alors ça c'est quand même un peu fort de café, c'est-à-dire dire que dans cette doctrine finalement on va légitimer la violence puisque Dieu est violent, donc ça légitime aussi la violence entre les hommes. Alors encore une fois, c'est l'homme qui est violent dans la croix, la crucifixion, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui a cloué Jésus-Christ sur la croix. Et Dieu montre que Jésus-Christ est justement le prince de paix. Il a souffert en silence et quand on regarde à son exemple, on ne peut même pas envisager de répondre par la violence. Lorsqu'il est sur la croix, Jésus n'est pas violent. Il demande le pardon pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors bien sûr, dans l'histoire chrétienne, il y a eu de la violence, il y a eu des guerres religieuses, il y a eu des croisades, mais ces actes-là ne sont pas dans la volonté de Dieu, n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, n'ont rien à voir avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ou l'enseignement des vérités bibliques qui prônent la paix, justement, l'amour du prochain et même de l'ennemi. Alors c'est vite dit parce que ceux qui ont fait ça, certaines violences, des fois ont eu une motivation spirituelle derrière, mais ils s'égarent, ils se sont égarés. Ils ont soit mal compris quelque chose, soit ils n'ont carrément pas écouté les commandements de Dieu et en ont fait comme ils le pensaient avec leur cœur mauvais. Donc, évidemment, on ne peut pas justifier la violence avec la croix. Et une autre affirmation encore, c'est celle que Bernard Cesbouy reprenait en disant « Mais finalement, la substitution pénale, ça arrive qu'au XIXe siècle, je ne sais plus quand est-ce qu'il le dit, déjà un peu au XVIe siècle, mais c'est finalement qu'au XIXe siècle que cette façon de comprendre la croix s'est généralisée. Les pères de l'Église n'en parlaient pas. C'est une nouveauté et ça n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. Alors déjà on peut répondre en tant que protestant que la première autorité pour nous ne vient pas de ce que les théologiens des premiers siècles ont écrit, c'est-à-dire les pères de l'Église. Si cette doctrine elle est biblique et qu'on la trouve dans la Bible, ça nous suffit pour le croire. Et en plus, dire que ça ne se trouve pas dans les écrits des pères d'Église, c'est faux et exagéré. On trouve ce thème de la substitution pénale, même si ce n'est pas le thème dominant, on le trouve chez Irénée, Chrysostome et Augustin. Alors peut-être sur la vingtaine de pères de l'Église, ce n'est pas énorme, mais on la trouve quand même. c'est pas absent. Et enfin, certains disent que la substitution pénale est complètement séparée du narratif des évangiles, de ce qui est raconté dans les évangiles. C'est quand Paul, après, surtout, ou Pierre aussi, ont fait de la théologie à partir de ça, qu'ils ont introduit cette notion de porter les péchés à la place des pécheurs, des coupables, et que ce ne serait pas une idée présente dans les évangiles. Alors, on peut dire que si, c'est présent dans les évangiles. Jésus est décrit comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, par exemple. Et aussi dans Jean 11, une allusion à la substitution pénale lorsqu'il est dit qu'il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple. On en avait parlé aussi la semaine dernière dans l'évangile de Jean. Et on peut noter que le récit de la crucifixion et celui de la résurrection sont aussi issus des évangiles, hein, qu'on ne fait pas une théologie qui n'a rien à voir avec l'évangile. On s'appuie sur le fait que, historiquement, Jésus est mort à la croix. Et comment comprendre ça? Eh bien, c'est surtout, effectivement, les apôtres qui nous le disent après dans les différentes épîtres, mais on peut déjà voir que Jésus était présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui dit ça de Jésus. Alors, je voudrais lire deux citations. Une de John Stott, qui dit « Nous avons examiné la gravité du péché en tant que rébellion contre Dieu. Nous avons démontré ensuite que les hommes et les femmes portent la responsabilité de leurs actes. Nous avons déduit enfin qu'ils sont coupables devant Dieu et comme tels passibles de jugement et de sanctions. Sommes-nous en droit de penser que Dieu juge et punit le mal ? Nous n'avons pas seulement le droit de le penser, mais le devoir. Car la toile de fond de la croix, ce n'est pas seulement le péché, la responsabilité de l'homme et sa culpabilité, c'est aussi essentiellement la juste réaction de Dieu vis-à-vis de tout cela. En d'autres mots, la manifestation de sa sainteté et de son courroux. » Et Paul Wells, qui dit « Trop scandaleux pour être envisagé, nous dirons les théologies humanistes. » Nous pensons, au contraire, que plus la croix est scandale, plus elle est glorieuse. En elle-même, sous le regard de Dieu, elle n'est pas scandale, car elle est voulue par Dieu, le Père, acceptée par Dieu le Fils, et elle est l'objet du témoignage de Dieu l'Esprit. Ce qui est scandaleux, c'est notre péché qui rend la croix nécessaire. Quand nous y contemplons tout l'amour de Dieu, la profondeur de la grâce du salut nous attire et devient sujet de reconnaissance. Quant à moi, dit l'apôtre Paul en Galates 6,14, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur. Alors la croix a toujours été au centre des discussions théologiques, au centre des conflits peut-être même théologiques et des débats. Mais pourquoi? Parce qu'elle est au centre de notre foi. Et qu'en définissant la croix, on définit notre foi et plein d'autres choses qui vont avec. La doctrine de la substitution pénale, dire que Jésus-Christ est mort à notre place, qu'il a été puni à notre place afin que nous soyons sauvés du juste jugement de Dieu et restaurés dans notre relation avec lui, me semble être un des cœurs incontournables, si ce n'est pas le cœur incontournable de l'Évangile et de notre compréhension, du coup, de toute la foi chrétienne basée sur l'œuvre de Jésus-Christ pour nous et à notre place. Alors, bien sûr, ça pose des tas de questions. Ça pose plus de questions d'ailleurs que de réponses, peut-être, de dire que la substitution pénale est effectivement biblique et qu'on peut répondre à un certain nombre des arguments qui s'y opposent. Et ça pose notamment la question de l'étendue, et je ne vais pas aborder cette question ce soir, de l'étendue de la substitution. À qui Jésus se substitue-t-il? De qui prend-il la peine? Seulement les élus? Potentiellement tout le monde? Tout le monde? Et c'est là qu'on entre après dans d'autres débats assez techniques entre les calvinistes, les universalistes, ce qu'on appelle aussi les universalistes hypothétiques, et tous les débats, je l'ai un petit peu évoqué aussi, liés à la doctrine des peines éternelles, qui est une doctrine très difficile, très dure. Et j'espère pouvoir, en tout cas, parler un petit peu plus de ces questions une autre fois, mais pas pour ce soir. Je voudrais conclure encore en lisant les paroles d'un cantique, parce que je ne pense pas qu'on le connaisse. Maintenant, si vous me dites que vous le connaissez, on peut le chanter. C'est le 120 qui dit « Viens, mon âme, et contemple ». Si vous le connaissez, eh bien alors on va le prendre, parce qu'à mon avis, c'est un des... On va pouvoir chanter la substitution pénale à travers ce chant, du coup, pour conclure. C'est ça, hein, la mélodie. Viens, mon âme, et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage. Il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamne au supplice, moi qui devais mourir. Les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée d'épines couronnées, tu portes à ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable, de tout ce que je suis. Mon âme et mon être à toi seul doivent être. C'est le droit que tu t'es acquis. Ben, je vais encore prier. Notre Dieu, oui, merci pour ta parole, merci pour ce qu'on a pu partager ensemble ce soir, parce que tu es mort à la croix à notre place, que nous puissions réaliser ce que cela implique dans notre vie, cette grâce immense qui nous est faite, ce pardon qui nous est donné, offert, sans que nous ayons à payer quoi que ce soit, juste à le recevoir. Seigneur, nous t'adressons notre reconnaissance, parce que nous ne sommes pas meilleurs que le reste des hommes qui n'a pas saisi la réalité de ton salut, mais c'est toi même qui es venu à nous pour nous en convaincre et nous faire marcher à ta suite. Et c'est ce que nous voulons faire dès ce soir et dans les jours qui viennent, en nous accrochant au pardon reçu, que ce pardon nous puissions aussi... le témoigner autour de nous, que nous-mêmes aussi dans nos relations interpersonnelles, nous soyons à ton exemple généreux aussi à donner le pardon. Seigneur, nous te remercions pour cette œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix, et nous aurons encore l'occasion de te le redire bien longtemps jusqu'à la fin de notre vie et jusque dans l'éternité. Amen. Amen.